d'histoires et contes.
Capitale 30260. Ce jour-là, de l'année 30260 après Jésus-Christ, je décide d'aller visiter la capitale par curiosité, mais surtout pour affaires personnelles, pour aller y vendre les graines rares que je cultive avec ma petite famille. Après force bisous, je quitte ma femme et mes deux filles, inquiètes de me voir partir pour un voyage qu'elles savent dangereux. Moi, je suis rassuré de les savoir dans notre maison troglodyte du milieu des falaises du Glandas, de la contrée d'Ioise de l'Empire. Grâce aux cordes, je me laisse glisser sur la piste. Elle est parsemée de gros blocs rocheux qu'il me faut contourner. De gros arbres tombés à l'horizontale la barrent souvent, que je m'amuse à escalader, ce que je pourrais éviter avec mes moyens modernes, mais j'aime adopter d'anciennes coutumes. Après une longue marche, je m'arrête devant les premières maisons. À leur base, elles ressemblent à des cylindres blancs percés de trous circulaires, les fenêtres. Le sommet s'épanouit en forme de chapeau, débordant largement le cylindre central. Il tourne lentement sur lui-même. Du chapeau tombe continuellement une pluie de milliers de petits sacs ronds à épines. La maison est habitée, et de temps en temps, ils se montrent aux fenêtres. Apparemment, ils n'ont pas d'oreilles, mais trois yeux qui clignotent et une bouche qui s'ouvre et se ferme sans cesse. Je poursuis ma route. D'autres maisons se présentent à ma vue. Larges à la base, elles se terminent en pointe. Elles sont entièrement recouvertes de panneaux photovoltaïques et tournent lentement sur elles-mêmes en suivant les mouvements du soleil. L'une d'elles, un vrai gratte-ciel, qui possède des milliers de petits calustrous nommés ostioles, et se termine par un vaste cylindre jaune vif d'où partent des dizaines d'hélicoptères qui montent sans effort apparent dans le ciel très haut, puis se dispersent dans toutes les directions de l'espace. Marchant plus vite, je rejoins une colonne de femmes en file indienne. Elles se ressemblent beaucoup. On les croirait toutes jumelles. Elles sont vêtues simplement en ouvrières et portent des fagots de bois, des bouquets de fleurs, des cajots de légumes, des caisses de fruits. Elles ne parlent pas, mais en dirigeant les deux antennes de mon analyseur olfactif vers l'une d'elles, je vois qu'elles diffusent deux odeurs. L'une qui marque la route d'une empreinte indélébile, l'autre qui dit à celle qui la suit de garder le contact. Soudain, il y a un sifflement. Et toutes les femmes s'arrêtent. C'est une femme deux fois plus grande que les autres, fortement armée d'une mitrailleuse de type récent, capable de projeter des odeurs répulsives qui a arrêté la colonne. Elle a bien fait car un train traverse la route. Il est immense en longueur et haut de 3 mètres, formé d'un ensemble unique, wagons et locomotives joints d'une belle couleur verte. Il n'a pas de roues et se propulse par reptation lente et silencieuse. Passée, la colonne se remet en place, puis marche à nouveau lentement. Mais moi, j'accélère, la dépasse et trouve une nouvelle colonne. Ce sont aussi des femmes qui portent des valises en verre aux multiples compartiments contenant des liquides huileux de couleurs variées. Toutes jeunes, elles ont une taille fine et une ceinture noire aux nombreux pétioles pointus. J'interpelle la plus jolie par ses yeux en amande. Je lui demande ce qu'il y a dans sa valise. Elle me répond qu'elle transporte des huiles essentielles de diverses provenances et qu'elle va les vendre à la capitale. Elle me scrute longuement et me dit « Vous êtes un membre de la tribu 2017. Je le reconnais à vos vêtements. Pantalon noir, chemise jaune et kippa verte. Et vous refusez de porter une plaque d'immatriculation. Il n'y a que les membres de la tribu 2017 qui sont ainsi accoutrés. » Je lui dis que, en effet, j'appartiens à la tribu 2017 et que nous ne sommes plus que 31 000 sur cette terre de 35 milliards d'habitants. Je m'approche d'elle et regarde la plaque d'immatriculation qu'elle porte autour du cou. Elle indique 30 240 C24 Q815 I13 3228 A9208 Zorée. Ce qui veut dire qu'elle est née en 30 240 après Jésus-Christ, qu'elle loge dans la capitale 24 au quartier 815, immeuble 3228, appartement 9208, et que son prénom est Zorée. Elle a raison. Je refuse de porter une plaque d'immatriculation. Dissimulée dans cette plaque, il y a en effet un récepteur de la police de la capitale 24 qui permet de vous géolocaliser à un mètre près. Avantage pour moi, je peux pirater sa plaque avec ma mini-caméra, inscrire ses coordonnées sur mon ordinateur portable. De cette manière, je peux aussi la géolocaliser. Je reconnais qu'elle m'est plutôt sympathique. J'accélère mon allure de beaucoup cette fois-ci, car j'utilise mes deux drones d'épaule qui me font voler à 5 mètres au-dessus du sol. Je reçois ainsi une troisième colonne de femmes, toutes portant une combinaison vert fluo. Elles portent des bracelets de grandes feuilles qu'elles ont coupées au sécateur en forme de carré de 10 cm de côté, ce qui donne de lourdes colonnes carrées assemblées par des liens élastiques. Ces carrés de feuilles, elles les disposeront sur les sols d'une terre argilo-calcaire pour y faire pousser des champignons de type lépiote, source de protéines et de sels minéraux, l'une des nourritures préférées des jeunes enfants de la capitale 24. Je suis en train d'admirer la force de ces petites femmes quand elles se mettent toutes à crier « Soldates, soldates, les loupèdes, les loupèdes !» Je me pose rapidement sur un rocher qui domine la piste pour comprendre. Une meute de loupèdes attaque la colonne. Issus de loups ancestraux, les loupèdes ont acquis la bipédie tout en conservant la quadrupédie. Leurs crocs redoutables peuvent perforer le fragile cou des ouvrières. La grande soldate appelée, elle mesure plus de 2 mètres, se précipite au secours de la colonne. Sans hésiter, en manœuvrant ses drones d'épaule, elle se pose au centre de la meute des loupèdes. Je la vois tirer sur un cordon qui pend de sa ceinture. La ceinture explose en projetant des dizaines de flèches sur les loupèdes. Les loupèdes s'enfuient sans demander leur reste, quelques-uns en hurlant, car les flèches ont un poison anti-loupède. Les ouvrières remercient la soldate et reprennent leur route, dont elles occupent le centre, ce qui leur permet de laisser passer deux autres colonnes circulant en sens inverse, toujours de petites femmes à combinaison verte, portant des paniers, sacs et valises vides. Je rallume mes drones d'épaule, remonte la route à plus de 150 km/h, survolant d'innombrables colonnes de femmes cueilleuses. Enfin, la capitale 24 se profile à l'horizon. C'est une immense pyramide de 5 km de long pour chaque face et de 2 km de hauteur, avec des milliers d'entrées sur toutes les faces, chaque entrée ayant sa piste d'atterrissage. Je remarque cependant que les colonnes de femmes sortent ou n'entrent que par les grandes entrées situées au niveau du sol. Je choisis l'entrée 1920 sur 3500 A à 1922 mètres de hauteur au point 3500. Je manœuvre pour atterrir sur la piste d'envol de la porte. Cependant, 10 mètres avant de me poser, avec ma caméra ordinateur, j'envoie un message lumineux qui brouille le système de reconnaissance du robot portier. C'est une méthode illégale, bien sûr, mais que j'utilise souvent pour toutes les villes de l'Empire, des continents, car je ne fréquente pas l'Empire des îles flottantes, car elle permet d'entrer rapidement sans être obligé de sortir son passeport, de le glisser dans la forme frontale du robot portier et d'être obligé parfois d'attendre plus de 2 heures l'accord de la police qui se méfie toujours des REAC 2017 dont je fais partie. J'avance dans le couloir très vite car j'ai mis mes deux pieds sur ma planche Zavatavit, qui se meut par quark électron silencieusement 30 cm au-dessus du sol. Je la préfère aux drones d'épaule que j'ai repliés et qui sont trop encombrants et trop bruyants en milieu urbain. Dans mon sac, j'ai des graines rares et bio que les REAC 2017 sont les seuls à savoir cultiver dans le monde. Je vais les vendre à un ponte de l'agroalimentaire dont j'ai géolocalisé le bureau, car maintenant, tous les lieux de travail et leurs travailleurs sont géolocalisés par les services mondiaux de surveillance de l'Empire, ainsi que les écrans de télévision qui ont tous leurs micro-caméras embarquées avec système automatique d'enregistrement, ce qui permet de cibler la publicité pour vous et vos robots. Les robots adorent la publicité. Et ils ont tous, depuis les années 15 000, leur budget propre. Ils ont même droit de prendre leur retraite après 400 ans de bons et loyaux services. À un tournant de couloir, je tombe nez à nez avec A9208 Zoré. Tiens, me dit-elle, Réac 2017, vous êtes déjà là. Vous avez fait vite. Cela ne m'étonnerait pas que vous ayez trompé le robot portier. Rassurez-vous, je serai aussi muet qu'une carpe robot. Vous voulez que je vous fasse visiter la capitale ? Je suis sûr que vous ne connaissez pas notre système reproducteur. Je peux vous le faire découvrir. En effet, je lui dis que je n'en ai que très vaguement entendu parler, retiré que je suis à mi-hauteur dans les falaises du Landas du Dioua. Je lui dis que je ne le connais pas de manière précise. Comme il me reste du temps avant de rencontrer ce ponte de l'agroalimentaire du ministère, je lui dis d'accord, je veux bien vous suivre. Grâce à nos planches quark électron, nous parcourons très vite le labyrinthe des couloirs. Enfin, devant nous, se tient une grande porte marquée « Maternité Spermatech C24 ». Il nous faut passer par une chambre de décontamination où nous laissons toutes nos affaires, vêtements et moyens de locomotion. Nous revêtons une blouse blanche qui ne laisse voir que nos yeux. C'est, paraît-il, pour éviter toute contamination microbienne, surtout les nanoparticules autoreproductrices et leur traduction virale responsable de graves épidémies dans les années 21 000. Après la chambre de décontamination, il y a deux nouvelles entrées. L'une marquée « Spermatech », l'autre marquée « Maternité ». Elle choisit l'entrée marquée « Spermatech ». Nous entrons dans une salle immense de plus de 100 mètres de longueur. Il y a là 50 hommes tout nus, allongés confortablement dans des fauteuils. À leur gauche se tient un robot anthropoïde et devant chacun d'eux, un grand écran de télévision éteint. Brusquement, tous les écrans s'allument et je m'aperçois qu'ils passent des scènes de films très érotiques. Je vois alors tous les sexes des 50 hommes se redresser en même temps. Les robots se précipitent et placent sur ces sexes impressionnants des préservatifs. Sur les écrans, les scènes érotiques se succèdent et les 50 hommes éjectent leurs spermatozoïdes dans les préservatifs. Les robots les enlèvent, essuient soigneusement les sexes qui reprennent peu à peu une taille nettement plus modeste et vont les enfermer dans des armoires spéciales où je pense qu'ils seront congés. Je me retourne vers A9208 et lui dis d'un ton outré « Mais c'est épouvantable ce qui se passe là. Comment peut-on obliger des hommes à n'être que des émetteurs de spermatozoïdes ?» Et me répond « Mais on ne les oblige pas. Ils sont tous volontaires. Ils sont nourris, blanchis, logés et payés 5 fois plus que les cueilleuses. Et ils ne font que cela une fois tous les 15 jours. C'est leur seul boulot. Le reste du temps, ils font du sport et des activités artistiques ou scientifiques. Pour eux, c'est la belle vie. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. » À ma grimace, elle voit que je ne suis pas d'accord. Elle me dit « Viens, allons voir les femmes à la maternité. » Nous allons un peu plus loin, mais cette fois-ci, ce n'est pas une seule grande salle, comme pour les hommes, mais un grand couloir sur lequel donnent 50 chambres individuelles. À l'entrée de chaque chambre, il y a un panneau avec le matricule de la femme suivi entre parenthèses d'un chiffre qui va de 0 à 25. Je demande à A9208 ce que veulent dire ces chiffres entre parenthèses. Elle me répond « C'est le nombre d'enfants qu'elles peuvent avoir. Elles sont comme les hommes. Leur seul rôle est la fécondation in vitro avec sélection des semences. Comme les hommes, elles ont choisi cette vie en toute liberté. Elles sont nourries, blanchies, logées, payées 10 fois plus que le salaire moyen. En dehors de l'activité de faire une naissance tous les 12 mois, elles se consacrent au sport et aux activités scientifiques et artistiques. Elles prennent leur retraite à 35 ans, alors que c'est 45 ans pour les hommes reproducteurs. Nous passons devant chaque chambre et j'observe que leur occupante est enceinte et proche d'accoucher. Il y a même une chambre avec 3 robots accoucheurs et un écran de télévision allumé passons une musique de style relaxation, méditation et des paysages de rêve. A 9208 me dit « Celle-ci va probablement accoucher aujourd'hui. Ce sera son 21e enfant. » À mon air effaré, elle voit que je découvre réellement pour la première fois l'univers reproducteur de la capitale 124 en 30260 après Jésus-Christ. « Tu sais, me dit-elle, moi aussi, j'ai choisi librement d'être cueilleuse et sous contraceptif. Je ne supporte pas le confinement dans les villes, j'aime être active dans la nature, malgré les loupèdes et les robots tueurs. » En l'an 26000, des robots ont échappé à tout contrôle et sont devenus des robots tueurs et pilleurs que les groupes d'intervention mobile traquent sans relâche. D'ailleurs, me dit-elle, il y a aussi des hommes cueilleurs et sous contraceptifs, avec lesquels nous nous entendons bien. Par contre, il n'y a plus d'ouvriers. Dès les années 5000, toutes les unités étaient robotisées, dirigées par quelques rares hommes ou femmes ingénieurs. Comme cueilleurs-cueilleuses, nous ne travaillons que 80 heures par mois. Le reste du temps, nous avons, comme les reproducteurs et reproductrices, des activités sportives et culturelles, de l'artisanat d'art, y compris l'art de la cuisine, et beaucoup de bénévolat associatif. Il n'y a que les robots qui travaillent 200 heures par mois. Avant, ils travaillaient 300 heures par mois, mais depuis qu'ils se sont syndiqués et ont lancé de grandes grèves, ils ne travaillent plus que 200 heures. Je lui dis, vous pouvez me guider, je dois rencontrer A325 dans I815. Je la vois consulter sa plaquette bracelet, et elle me dit, suivez-moi, en allumant sa planche Zavatavit. Je fais de même, et 10 minutes plus tard, nous sommes devant l'appartement 325 de l'immeuble 815. Je frappe à la porte. Bizarrement, cette très vieille coutume subsiste en 30260. Une voix forte me dit « Entrez !» Je dis rapidement à 9208 de m'attendre et j'entre. Je me trouve face au directeur de l'agroalimentaire du ministère, encadré par deux robots gardiens. Je lui dis que j'ai un échantillon de graines rares à lui montrer. Il est d'accord. Je lui donne 9 échantillons qu'il place un par un dans les petits tiroirs d'un robot analyseur. 30 secondes plus tard, les analyses ADN, ARN, protéines sont disponibles et il les compare avec les données qu'il possède sur d'autres graines. Il paraît étonné. « C'est d'accord, me dit-il. Nous sommes intéressés. Il n'y a que le REAC 2017 pour avoir ce type de graines. Je vous fais ma commande et je vous règle tout de suite. » Il me montre la somme qu'il accepte de me donner. Elle est loin d'être négligeable. Et je lui donne mon accord. Instantanément, par satellite, il envoie la somme sur mon compte en banque, avec quelques secondes plus tard, un signal sonore de mon ordinateur indiquant qu'elle est bien arrivée. Nous nous quittons bons amis et elle souhaite me revoir. Nous serrons la main. Encore une vieille coutume qui a franchi les millénaires. Je retrouve A9208. Je lui dis que je reviendrai la voir quand je rapporterai de nouvelles graines dans un an. Elle me guide à nouveau et me fait retrouver en moins d'une demi-heure l'entrée 1920 sur 3500A, ou plutôt la sortie. Je lui fais 3 bisous sur les 2 joues à la mode d'Ioise et je la vois rougir, ce qui la rend encore plus jolie. Après les épidémies des années 21000, les bisous ont été interdits. Mais les REAC 2017 les font toujours. Je m'éloigne à tir de drone en lui faisant au revoir de la main. Quelques heures plus tard, je suis de retour chez moi, j'atterris sur la planche d'envol de mon appartement troglodyte au milieu des falaises du Gandas, ce qui nous met à l'abri, ma famille et moi, des loupèdes et des robots tueurs. Ma femme est là avec mes 2 filles, je la serre dans mes bras et je lui dis « Chérie, tu sais, nous sommes en 30260 après Jésus-Christ. » Et je n'ai jamais été aussi heureux d'être un vieux réac des années 2017, après Jésus-Christ. »